Je suis né d'une famille où il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels. Alors plus tard, en écrivant l'histoire de ma famille, j'ai découvert et approfondi l'histoire d'une des branches de ma famille d'origine hongroise, où là, il y avait beaucoup d'intellectuels, y compris académiciens, rabbins, etc., qui étaient une famille de hongroise, mais que malheureusement, je n'ai pas connu, que mon père n'a pas connu. Mon grand-père était hongrois, et j'ai beaucoup appris en écrivant l'histoire de ma famille. Hein. On n'est pas responsable de ses ancêtres, mais c'est pas mal de connaître ses ancêtres et de savoir ce qu'ils ont fait. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris, compte tenu de la famille dans laquelle j'ai vécu quand j'étais jeune, de parents qui avaient quitté l'école à 12 ans pour mon père, à 13 ans et demi pour ma mère, qui ont travaillé tout de suite, durement. Mon père transportait des colis de bière à la brasserie Payette au Havre dans les années 1900, pendant de 1915, 1916, à la fin de la Première Guerre mondiale, début de l'entre-deux-guerres. Voilà, donc une famille où j'ai vécu dans une famille où il n'y avait pas un livre à la maison. Et pourtant, comme je pense que c'est possible, et c'est encore possible, et ça doit être possible, et il faut encourager cela dans la société française d'aujourd'hui, peu importe le milieu dans lequel on vit, on doit pouvoir faire des études, réussir, mais forcément avec de l'exigence. C'est donner un diplôme, un baccalauréat, une entrée à l'université, parce que c'est comme ça, ben non, le pauvre, il n'a pas eu la chance de naître dans une famille, etc. C'est criminel, parce que c'est donner des illusions qui, malheureusement, tout ça se termine très, très mal. Et les débats d'aujourd'hui autour du baccalauréat, etc., me font penser à ma propre expérience, qui est une expérience d'exigence. Donc, c'est pas très rigolo, surtout quand on n'est pas porté sur le plan intellectuel par ses proches, d'être simplement porté par l'idée, tu vas travailler, tu vas réussir, mais à force de travail. Et c'est sans doute dans ce milieu que j'ai vécu. Je voudrais dire aussi, parce que c'est la vérité de cette époque, certains ont été élevés dans l'école primaire laïque et obligatoire d'État, avec encore de ma génération des descendants des hussards noirs de la Troisième République qui tiraient le meilleur des élèves qu'ils avaient devant eux et qui étaient exigeants avec tous, qu'ils soient enfants de pauvres ou enfants de bourgeois. Et moi, il se trouve que c'était chez les Frères des écoles chrétiennes, qui était un ordre catholique qui a disparu pratiquement aujourd'hui en France, mais qui était à peu près, d'ailleurs ils étaient tout en noir, comme les hussards, sauf qu'ils avaient un rabat ici, mais c'était à peu près le même genre. Alors il y avait en plus la prière avant les cours, mais tout le reste était pareil, c'est-à-dire que dans l'école où j'étais en banlieue parisienne et en banlieue ouvrière, à Pantin, enfin au Pré-Saint-Gervais, tout le monde devait avoir le BEPC, le brevet. Et 100%, il y avait 100% de réussite, quelle que soit l'origine sociale des élèves. Et ça, c'est quelque chose, je me dis maintenant, bon, je voulais pas, je n'aurais jamais parlé quand j'étais plus jeune. Maintenant, je peux le dire, merci à ces frères qui seraient mis en examen aujourd'hui, tellement leur méthode était complètement archaïque et qu'ils utilisaient la trique et les châtiments corporels sans aucune hésitation. Mais on le faisait aussi à l'école laïque et obligatoire. Et donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Tout au long de ma vie après. Bon, voilà pour la partie personnelle. Donc, il se trouve que je suis né aussi dans une famille. Ma mère avait été élevée par sa grand-mère qui était alsacienne, une alsacienne optante. Je ne sais pas si les optants, ça vous dit quelque chose. Ce sont des Alsaciens qui, en 1870, ont eu la possibilité de rester français à condition qu'ils quittent l'Alsace avec leur baluchon et qu'ils viennent habiter en France de l'intérieur, de l'autre côté de la ligne bleue des Vosges. Et donc, mes arrière-grands-parents maternels étaient des optants, c'était des optants alsaciens, partis à 17 ans d'Alsace. On imagine ce que c'est. Ils n'étaient pas menacés, sauf l'arrière-grand-père qui, lui, aurait dû porter l'uniforme prussien, puisqu'il avait l'âge d'aller dans l'armée et qui ne voulait absolument pas porter l'uniforme prussien. Mais l'arrière-grand-mère, une fille, n'avait pas à faire l'armée, elle aurait pu rester dans sa famille en Alsace. Elle a voulu être française. Et il se trouve que cette arrière-grand-mère était cuisinière. À 17 ans, elle avait dû aller à l'école jusqu'à 11-12 ans. Elle était cuisinière et elle a élevé ses petits-enfants, dont ma mère, puisque mon grand-père est mort à la Première Guerre mondiale. Donc, elle a élevé ses petits-enfants dans l'amour de la bonne cuisine, l'amour de la bonne chère, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison. C'était une famille pauvre, mais où le bien manger était une valeur essentielle. C'était le lien le liant de cette famille. J'ai raconté ça déjà deux ou trois fois dans des ouvrages. Cette arrière-grand-mère était arrivée avec dans son baluchon un moule à Kouglof. Et ce moule à Kouglof est devenu l'âme de la famille. Bon, il est cassé depuis le jour où j'ai écrit son histoire, parce que ma mère, d'émotion, l'a fait tomber sur le carrelage. Donc le moule s'est cassé, mais ça fait rien. Peu importe, il est toujours là. C'est l'âme du moule qui est là. Et on continue à faire le Kouglof dans la famille depuis donc, qu'ils sont arrivés en 71. Vous voyez, ça fait quand même maintenant 148 ans, un siècle et demi. On continue à faire le Kouglof, surtout au moment de la Toussaint, selon la recette de l'époque, qui n'a rien à voir avec les Kouglof d'aujourd'hui en Alsace. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que... Ça explique mon intérêt très soutenu pour la bonne chère et après pour le bon vin, quand j'ai eu l'âge, et mon souhait d'enfance de devenir cuisinier. Ma vraie vocation, c'était d'être cuisinier. Mais très sincèrement, c'était vraiment mon souhait le plus cher. Et je lisais, quand je trouvais un journal ou quelque chose, ou des recettes de cuisine, je lisais ça, je découpais alors que j'avais moins de 10 ans. Donc c'était vraiment ma vocation. Simplement, le métier de cuisinier dans les années, fin des années 50, début des années 60, c'était le métier le plus pourri qui soit. Aujourd'hui, les cuisiniers sont adulés, on les voit à la télévision. Quand le guide Michelin sort, le Premier ministre se déplace pour saluer les nouveaux 3 étoiles, vous vous rendez compte? On n'aurait jamais imaginé ça. Ça a commencé en 76 quand Giscard a remis la Légion d'honneur à Paul Bocuse à l'Élysée. Mais sinon, avant, les cuisiniers, c'était le dernier des métiers. Le métier de cuisinier travaillait dans des culs de basse fosse, dans des conditions d'hygiène effroyables. Ils étaient tous alcooliques, énormes parce qu'ils compensaient en mangeant beaucoup. Donc c'était vraiment pas un métier recommandable et noble. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas de cuisiniers connus. Les cuisiniers qui avaient eu, mais moi j'avais jamais entendu parler d'eux, des gens comme Escoffier ou comme Carême, qui avaient été cuisiniers des rois, des princes et des grands hôtels, et qui n'étaient plus d'ailleurs en cuisine à la fin de leur carrière, c'est l'exception dans l'histoire de la cuisine. Donc les cuisiniers de cette époque étaient vraiment des gens très très mal considérés dans la société. Donc mes parents, ayant en quelque sorte des... J'ai porté un peu les ambitions de promotion sociale de ma famille, comme beaucoup de ma génération, qui ont commencé à faire des études. J'étais le premier à passer le baccalauréat, etc. Donc, m'ont poussé à faire des études. Et tout l'entourage familial et l'entourage de la banlieue où je vivais, c'était ça. Comme j'avais passé le bac un peu jeune, je me souviens dans la rue, les dames qui disaient à ma mère « Ah, mais il faut qu'il fasse des études, votre petit, etc. » C'était... J'ai senti réellement ce milieu social... qui essayait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu plus d'un demi-siècle, qui essayait de se sortir de la prédestination. Et en fait, ils ne croyaient pas à la prédestination. Ils pensaient profondément que c'était très dur, mais qu'à force d'efforts, on pouvait arriver à se sortir de la fatalité de la naissance et de la pauvreté, disons. Enfin, de la pauvreté, pas de la misère noire, mais du manque de moyens, des vacances rares, etc. De toutes choses que beaucoup de milieux vivent aujourd'hui, mais avec un sentiment très différent. Je crois qu'aujourd'hui, il manque cette espèce d'espérance, cette espèce de hargne, enfin de hargne, le mot est peut-être trop fort, mais en tout cas, de volonté de s'en sortir. Et je pense que notre milieu éducatif, que ce soit l'école, le collège, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université, nous sommes là pour ça, pour insuffler ce désir de se dépasser. Tout simplement, c'est pas d'arriver le plus haut possible, mais de se dépasser et de faire quelque chose de sa vie. Et moi, je j'aurais pas pu vous dire ça même il y a 10 ans. C'est l'âge venant, en réfléchissant, que je me dis, au fond, ce que j'ai pu faire dans la vie, c'est quand même aussi grâce à cette société, à ce milieu social, alors que pendant des années, je ne voulais pas retourner dans ma banlieue. Je vais au cimetière sur la tombe de mes parents, mais je peux vous assurer que ça me pèse, cette banlieue, parce que c'était des années difficiles. Mais aujourd'hui, j'y reviendrai presque avec plaisir en disant que c'est quand même de là, c'est ce terreau qui t'a permis de faire quelque chose de ta vie. Et je pense que c'est vrai partout et qu'on doit... redonner ce souffle à la société d'aujourd'hui et à la jeunesse d'aujourd'hui qui est trop souvent désespérée ou qui trouve que si ça va pas bien, c'est de la faute des autres, ce qui est trop facile. Donc voilà, bon, je voulais vous dire ça, je n'avais pas pensé vous le dire, mais je vous le dis quand même. Voilà. Donc je voulais être cuisinier, on m'en a empêché parce que le métier n'était pas noble, donc j'ai été jusqu'au baccalauréat, et puis après, que faire ? La cuisine m'étant fermée, mais j'ai toujours gardé de l'intérêt pour la chose, je m'étais un peu reporté sur le tourisme. C'était l'époque, je me souviens, il y avait des voisins dont le fils était steward sur Air France. Et donc, bien entendu, je n'avais jamais pris l'avion. Quand j'ai passé le bac, j'ai pris l'avion plusieurs années après, je crois, pour la première fois. Je n'avais donc jamais pris l'avion. Et je n'avais que des idées extrêmement rêvées de ce métier de steward qui m'apparaissait quand même quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on était bien habillé, qu'on était dans un lieu improbable qui est un avion, qu'on servait du champagne et du caviar et qu'on voyageait dans le monde entier aux frais de la princesse et de la compagnie. Ça devait être, je pensais que c'était absolument merveilleux. Et donc... C'est à partir de ça que j'ai pensé au tourisme, au métier du tourisme. C'était le début des formations autour du tourisme. Et donc, il y avait à la Sorbonne, à ce moment-là, un institut supérieur du tourisme qui avait été créé, alors je ne sais plus qui l'avait créé, un certain Burnet, je crois, pas Brunet, mais un certain Burnet. Et Jacqueline Beaujeu-Garnier enseignait dans cet institut supérieur du tourisme. Donc, je m'étais un peu renseigné et je me disais, bon, ben voilà, puisque je dois poursuivre des études, pourquoi pas dans le tourisme ? Et j'avais lu, ou on m'avait dit, que pour réussir le concours d'entrée à cet institut, il fallait faire 2 ans de géographie avant. Donc je me suis inscrit en géographie, alors que je n'avais pas une passion folle pour cette discipline dans le secondaire. Je n'avais pas eu de mauvais professeur, mais disons que ça n'avait pas éveillé une vocation extraordinaire, un plaisir fantastique. J'avais été plus intéressé en première et terminale par la littérature que par la géographie. Simplement, j'avais quand même eu la chance de... Mes parents, donc, comme je vous l'ai dit, manquaient un peu de moyens. Mais tous les ans, ils partaient en vacances. Alors soit dans des maisons familiales, qui étaient une espèce de un peu colonie de vacances pour familles, très bon marché. Mais il y en avait partout en France à l'époque. Hein, c'était à la suite du Front populaire. On avait ouvert beaucoup, beaucoup de ces maisons. Soit c'était pas encore, on n'appelait pas ça des gîtes ruraux, mais c'était déjà ça. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens louaient des petites maisons à la campagne, des appartements qui étaient d'un inconfort absolument total. Mais mes parents voulaient voyager avec très peu de moyens. Et donc j'ai passé toutes les vacances de mon enfance dans des lieux différents, dans toutes les régions de France, pratiquement, donc avec le billet de SNCF, des congés payés, c'était pas cher du tout. On passait la nuit dans le train. Et donc j'ai découvert un peu la campagne, les campagnes profondes. Et dans les années 50, beaucoup de campagnes françaises étaient encore très, très, très profondes. Hein, pas d'eau, pas d'électricité, tout ça. Il y avait beaucoup de régions où je découvrais un monde complètement insolite par rapport à la banlieue parisienne. Donc sans doute que c'est une partie de ma vocation de géographe. En tout cas, quand j'ai commencé les études de géographie, je me suis aperçu que tous ces voyages en France m'avaient beaucoup servi. Et en particulier, une espèce de fascination, parce que c'était très exotique, pour le monde agricole et rural. Donc je commence les études de géographie. Et là, je découvre évidemment, comme tous ceux qui ont fait des études de géographie à l'université, une géographie totalement différente de celle qu'on enseignait dans le secondaire. On passait des diapositives dans les cours. Par exemple, je me souviens de cours de première année où il y avait André Guilcher, grand professeur de géographie physique, spécialiste des littoraux, mais qui donnait aux premières années un cours de géomorphologie. Donc a priori, c'était quand même un peu rébarbatif pour quelqu'un n'ayant jamais pratiqué cette discipline, et qui était fascinant, tellement c'était clair, tellement c'était lumineux, et toutes les croquis qu'il faisait au tableau, des coupes absolument parfaites, pas comme d'autres maîtres en géomorphologie qui effaçaient les coupes avec leurs manches au fur et à mesure qu'ils les dessinaient. Je parle de Pierre Biro, pour ceux qui l'ont connu. André Guilcher, c'était totalement lumineux, et chacune de ses démonstrations était illustrée de diapositives projetées sur grand écran, qu'il avait prise lui-même et qui illustrait son propos. Donc là, j'ai compris enfin ce qu'était un val, une combe, une cluse, une nappe de charriage, etc. Tout ça était coulé de source, tellement c'était bien dit, clair, avec les mots qu'il fallait. Donc ça a été une illumination. Donc si j'ai pu te faire aimer la géomorphologie, c'est un peu grâce à André Guilcher, etc. Donc le cours de Jacqueline Beaujeu-Garnier, elle était assez critiquée après je m'en suis aperçu par ses collègues de sa génération dans la discipline, mais en fait était aussi extraordinairement vivant, parce que comme elle avait acquis une réputation internationale, elle était invitée dans le monde entier, et elle prenait aussi, c'était le début des photos, on prenait des diapositives et elle illustrait tous ses cours de diapositives. Bon, aujourd'hui, évidemment, l'image, tout le monde en a par-dessus la tête, on en a partout, sur son portable, de son ordinateur, à la télévision. Mais à l'époque, voir projeté sur grand écran Los Angeles ou New York, comme Jacqueline Beaujeu-Garnier le faisait, ou Tokyo, puisqu'elle avait voyagé partout dans quand elle faisait un cours de géographie urbaine, c'était fascinant. Et en plus, elle avait un certain charme, pour ceux qui l'ont connue à l'époque, dont elle savait user auprès des étudiants avec beaucoup de panache, puisque c'est une femme qui était agréable à regarder et qui fascinait un peu les étudiants. Le charisme joue aussi un certain rôle dans la façon de transmettre le savoir. Bref, tout ça, je ne veux pas vous raconter toutes mes études, mais arrive le moment, donc je passe sans trop de difficultés, mais non plus sans panache et sans mention, la première année, la deuxième année. Deuxième année, c'était 68. Bon, je n'étais pas vraiment sur les barricades. Je peux même dire que je n'étais pas du tout. On arrive au cinquantenaire. J'y vais, je peux dire ce que... Allez, j'y vais. Tant pis, hein. Après, vous penserez ce que vous voudrez. Mais compte tenu de ce que je vous ai raconté de mon enfance, c'est vrai que voyant un certain nombre de mes copains de fac ou copines de fac venant de milieux plus bourgeois et casser leurs jouets en 68, ça ne m'a pas beaucoup plu. Donc je me suis un petit peu réveillé, je me suis retrouvé très anti-68ard, et sans jamais avoir pris de carte d'aucun parti, je n'ai jamais été dans cette mouvance, et voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si on fait le bilan, malheureusement, on a beaucoup cassé sans beaucoup construire à cette époque. Mais ça, ce serait une autre histoire qui n'est pas ce qu'on m'a demandé de vous raconter aujourd'hui. Puisque je continue à penser qu'il faut aujourd'hui plus que jamais faire preuve à la fois de mansuétude et de bonté vis-à-vis de la jeunesse, mais aussi d'exigence, parce que sinon elle ne réussit à rien et qu'elle s'en sort très 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 mal l'âge adulte venu. Donc je passe la licence, où là je me réveille un tout petit peu. J'étais pas un passionné d'études supérieures, et j'avais quand même quelques handicaps liés à l'absence de bibliothèque à la maison, mais je me souviens quand même qu'avec mon argent de poche, j'achetais le manuel de Derwaux, de géographie physique et de géographie humaine, qui étaient des manuels très chers à l'époque, mais on les achetait. Les étudiants achetaient quelques manuels chaque année. Aujourd'hui, je ne sais pas si les étudiants qui sont là achètent beaucoup de manuels. Et avec leur argent de poche, ils font autre chose en général. Puis il y a les bibliothèques qui sont peut-être plus pratiques, mais en tout cas, on le faisait. Mais donc, je réussis ma licence, et là, il faut choisir un sujet de maîtrise. Et j'avais un frère, à l'époque, qui avait fait un retour à la Terre, en 68, et qui habitait à ce moment-là dans le Jura. Et donc, je l'aidais un peu, il était apiculteur, vous voyez, avec déjà plusieurs enfants, et je l'aidais un peu à transporter les ruches, on faisait de la transhumance en été. Et donc, je choisis, en accord avec Jacqueline Beaujeu-Garnier, de faire une maîtrise sur les vignobles du Bugey. Pourquoi les vignobles ? Parce que j'avais découvert en 66 ce monde incroyable de la vigne et du vin en faisant les vendanges en Bourgogne. J'avais aucune attache bourguignonne et aucune attache dans le vin. Mes parents buvaient du vin à tous les repas, comme beaucoup de Français de cette époque. Et au lycée, on avait du vin, on avait des carafes de vin sur les tables. Aujourd'hui, c'est plus rare, hein, et dans les restaurants universitaires, il y a peu d'étudiants qui prennent une petite bouteille de vin, même si c'est autorisé. Et je recommande vivement de boire un peu de vin au restaurant universitaire. Je l'ai écrit avec Jean-Pierre Coff dans un rapport il y a quelques années, qui a été très critiqué par les anti-alcooliques et par le monde, mais c'est pas grave. En tout cas, donc, j'avais découvert en faisant les vendanges en Bourgogne un monde complètement, alors réellement exotique et fascinant pour moi, qui est le monde de ces vignerons de Bourgogne. C'était des petits vignerons de Chorey-les-Beaunes, juste à côté de Beaune, et qui, je suis resté 3 semaines, parce qu'après, j'étais monté dans les hautes côtes, continuer les vendanges, où il y avait un peu de retard par rapport à la côte, et fascination pour le milieu paysan, pour la truculence bourguignonne, pour l'amour du bon vin, pour le marc de Bourgogne, pour les repas plantureux qui ne s'arrêtaient jamais. Parce qu'à l'époque, on logeait les vendangeurs, on nourrissait les vendangeurs midi, soir. Le matin, les femmes de vignerons apportaient des gros sandwichs de hareng sort au milieu des vignes. Et je peux vous assurer, quand il fait 4-5 degrés, que vous avez l'onglet, que vous vous êtes coupé au sécateur, etc., et qu'on vous apporte un gros sandwich de hareng sort avec un verre d'aligoté, ça vous remonte le moral. Donc tout ça m'avait complètement transporté. Donc ma maîtrise ne devait porter pour moi que sur la vigne. C'était ça qui m'intéressait. Et donc, Jacqueline Beaujeu-Garnier, ça ne l'intéressait pas du tout. Elle était plutôt dans les villes et dans la géographie commerciale. C'était ce qui cartographiait les supermarchés, les aires de chalandise. On avait fait des enquêtes avec elle en Beauce sur la clientèle des supermarchés. Bon, je n'avais pas envie de faire une maîtrise sur la clientèle des supermarchés, ce qu'elle m'aurait volontiers confié, puisqu'elle découpait en petits morceaux toute la région parisienne pour étudier justement la géographie commerciale. Donc, elle a accepté gentiment, sans beaucoup se passionner pour mon sujet, mais ce n'est pas grave, moi ça me passionnait. Et donc, j'ai fait une maîtrise où je me suis vraiment donné à fond, en travaillant des heures et des heures, et en faisant beaucoup de terrain. Alors, à l'époque, je circulais en mobylette sur les routes du Bugey, qui étaient verglacées. C'était en hiver, puisqu'on prépare son terrain en hiver pour soutenir la maîtrise au printemps. Et donc, j'ai des souvenirs extraordinaires de cette période. Et donc, ça a été mon premier vrai contact avec la recherche et que j'ai beaucoup apprécié. Et j'avais à l'époque donc travaillé pas mal, pas de manière très approfondie, mais aux archives du département de l'Ain. Et donc, découvert le plaisir de travailler dans les archives. Ensuite, donc, je réussis bien ma maîtrise. Jacqueline Beaujeu-Garnier me donne une très bonne note et dit « Qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine ?» Et je ne savais absolument pas. J'avais abandonné l'idée du tourisme. Je ne savais pas où j'allais aller. C'est pour ça que je ne recommande pas aux étudiants de ne pas avoir de projet dans leurs études. Mais il se trouve que c'était le cas. J'étais donc assez jeune, mais j'étais maîtrise acquise sans savoir ce que j'allais faire. Et Jacqueline Beaujeu-Garnier me dit « Mais pourquoi vous ne passeriez pas l'agrégation ?» Et sincèrement, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas trop l'idée de ce qu'il y avait derrière. Je n'avais pas du tout envie de devenir prof. Donc, c'était une espèce, ça m'est tombé sur le rable, comme ça, une grande surprise. Et donc, j'ai dit pourquoi pas. Et à ce moment-là, donc, j'ai préparé sérieusement, puisque c'était le choix qu'on avait fait un peu pour moi, mais que donc j'ai préparé sérieusement. J'ai découvert des profs extraordinaires qui étaient les profs d'histoire. Et les cours magistraux dans les grands amphis de la Sorbonne, donc je pense à Victor Lucien Tapier, à Jean Favier, à Durosel, qui étaient des profs sans doute meilleurs orateurs que l'étaient les géographes, très différents, mais qui avaient surtout pour le cours d'agrégation, qui est un exercice magistral, une pensée très structurée, claire. On sortait du cours, on savait beaucoup, beaucoup de choses, et ça évitait de lire 10 livres ou 15 livres. Parce que tellement ça avait été digéré, tellement ça coulait de source. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup fasciné, ce qui fait que j'ai eu de meilleures notes en histoire qu'en géographie, à l'écrit, ce qui m'a permis de passer à l'oral. Et donc, un peu par miracle, parce que je n'avais que 21 ans, je réussis du premier coup à l'agrégation. Et donc, je me retrouve prof de lycée à 21 ans et demi, dans un lycée parisien, à Chaptal, en stage d'agrégation. Ce qui, donc, d'un seul coup, je me suis trouvé plongé d'une enfance attardée, un peu d'une adolescence attardée, disons, au métier de prof, dans des conditions pas très faciles. Alors, les élèves étaient plus faciles à l'époque que maintenant. Néanmoins, petit détail, j'avais en stage, on faisait des périodes dans différents lycées avec un maître de stage. Et puis, on avait des classes en responsabilité. On avait chacun deux classes dans un lycée. C'était à Chaptal, à Paris. Et donc, j'avais une cinquième. Alors, enseigner en cinquième, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont fait, c'est merveilleux. Ça doit l'être encore aujourd'hui parce que les élèves sont délicieux, ils sont curieux de tout, ils ont un regard naïf, ils aiment leur prof, tout ça, c'est formidable. Et puis, il m'avait donné la classe la pire du lycée, dont personne ne voulait en histoire-géographie, qui était une seconde technique, genre bac pro. Donc, l'horreur absolue pour un prof d'histoire-géographie. Un prof de mécanique, très bien, mais un prof d'histoire-géographie, ça a été l'horreur. Et moi, j'étais très, très, très jeune. Et donc, j'ai souffert beaucoup. Et donc, je me suis juré que je ne resterais pas longtemps dans le secondaire. Grâce à ça, grâce à eux. Heureusement que j'ai eu cette classe qui m'a... je me suis dit, si c'est ça jusqu'à la retraite, moi, je ne tiendrai pas. Et alors, donc voilà, donc tout ça, je vous disais qu'il faut aller dans les embranchements, saisir les occasions. Je me suis un peu laissé faire et je suis arrivé, non pas sans effort, avec beaucoup d'efforts, mais sans avoir complètement choisi ce destin, ou du moins je l'interprète comme ça maintenant. Il n'empêche que j'étais prof et que je le suis toujours, et puis je ne le regrette pas du tout. Mais c'est un tout petit peu le hasard quand même. Alors, autre hasard qui arrive à ce moment-là, vous savez qu'à cette époque, il y avait encore le service national à accomplir, mais le service militaire était très, très, très dévalorisé déjà. Et donc, les diplômés de l'université n'avaient pas très envie d'aller se payer un an de service militaire dans une caserne à ne rien faire. Mais on avait beaucoup de possibilités de partir en coopération. Et pour les géographes, c'était très attractif parce qu'on pouvait partir enseigner à l'étranger, largement en Afrique, mais ailleurs aussi, pour accomplir son service national. Simplement, c'était 2 ans. Donc, moi, j'ai choisi cela. Alors, je racontais tout à l'heure, peut-être très brièvement, il y avait un professeur que Pierre a dû connaître, Jean Delvert, qui était à Paris-Sorbonne et qui m'aimait bien et qui voulait absolument que je fasse une thèse avec lui sur l'Asie, bien sûr, puisque lui était spécialiste de l'Extrême-Orient. Il voulait absolument que j'aille en Asie. Pourquoi pas, je n'avais pas d'idée préconçue là-dessus. Donc, il pensait avoir des connaissances du piston au ministère des Affaires étrangères. Et il pensait m'envoyer en Asie, au Laos, en coopération. Ça n'a pas marché. On m'envoie au Burundi. Bon, donc le Burundi, c'était encore les tropiques humides. Donc Jean Delvert, il fallait que ce soit humide pour qu'il s'intéresse à la chose. Le désert ne l'intéressait pas. Donc il dit, bon, très bien, ben, vous allez faire une thèse sur le Burundi, ce sera parfait. Donc je crois l'été 72 que je partais enseigner à l'école normale supérieure du Burundi. Et au milieu de l'été, on me dit « Ah ben non, vous ne partez plus parce qu'il y a eu une guerre civile et tous vos élèves se sont entretués. Donc il n'y a plus d'élèves à l'école normale supérieure. Donc, et alors, on va vous mettre ailleurs. » Et à la fin de l'été, j'apprends qu'on m'envoie en Mauritanie, à Nouakchott. Alors là, c'est pas très tropical humide. C'est tropical, mais pas très humide. Et je me retrouve donc en septembre 72, sans rien avoir préparé à Nouakchott, sans avoir lu sur la région, sans avoir jamais voyagé beaucoup, même pratiquement pas, à l'étranger. Donc je me retrouve dans cette ville improbable de Nouakchott, construite à la va-vite en 1957-60 par les Français qui ont voulu construire une capitale pour ce pays qui n'en avait pas. C'est un des rares pays au monde qui est devenu indépendant en 60 sans avoir véritablement de capitale, puisque la capitale était Saint-Louis du Sénégal. C'était la rive droite de Saint-Louis du Sénégal qui servait de capitale à la Mauritanie, qui était un territoire désertique et qui n'intéressait pas vraiment la France. Donc la France a construit cette capitale sur le modèle de à peu près de Caen de la reconstruction, avec des immeubles en forme de manivelle, comme ça, en béton, au milieu d'un désert, alors sans végétation du tout, avec des températures variant entre 20-25 degrés en hiver et 40-45 degrés en été, sans végétation, enfin un lieu effroyable. Mais moi, j'étais jeune, je me suis retrouvé prof à l'école normale supérieure et j'ai découvert, alors là, vraiment l'altérité. Je parlais d'exotisme pour les paysans bourguignons, les vignerons bourguignons. Je peux vous assurer que les nomades de Mauritanie, parce que Nouakchott, c'est une ville qui a été, à cette époque, peuplée essentiellement de gens qui étaient nés sous la tente. La plupart étaient nés sous la tente. Le président de la République de cette époque, Mokhtar Ouldada, était né sous la tente et dans un campement pauvre. Et mes élèves, je me retrouve donc à l'école normale supérieure pour enseigner l'histoire et la géographie. Mes élèves étaient, il y en avait 17, j'ai encore tous leurs noms en tête parce que je les ai eus pendant 2 ans, 2 heures par jour. Donc ils m'ont supporté. Et moi aussi, je les ai supportés. Supportés, non pas au sens anglo-saxon, hein, parce que c'était parfois un peu musclé, surtout que j'ai eu à enseigner l'histoire de l'islam et qu'ils connaissaient tous le Coran par cœur, qu'ils étaient pour beaucoup enfants de marabouts. Mais on pouvait encore enseigner à la manière occidentale. Donc moi, je lisais beaucoup de livres à la bibliothèque de l'ambassade sur l'islam. Et le lendemain, je venais faire mes cours. Et bon, ça allait à peu près. Mais sauf qu'il fallait faire admettre à ces élèves, qui étaient pourtant des adultes, ils avaient mon âge. Et certains étaient plus vieux, ils avaient été instituteurs déjà. Leur faire admettre qu'on pouvait faire l'étude d'une religion, d'un point de vue scientifique, même de sa propre religion, avec un esprit critique. Or, comme vous le savez, ce n'est pas ce qu'il y a de plus répandu dans la vision musulmane des choses. Et donc, parler de Rodinson ou des grands penseurs, ou de Jacques Berck, des grands penseurs de l'islam, à des gens qui sont très croyants, en même temps très tolérants, enfin, ils adoraient discuter, mais ah, « Monsieur, vous nous dites ça, mais c'est pas vrai, parce que dans le Coran, il y a écrit ça, regardez bien ». Donc cette discussion était absolument passionnante, parce qu'ils avaient beaucoup d'humour en même temps, et une vraie, il y avait aucun, moi j'ai jamais senti à aucun moment de ces deux années, et je suis allé beaucoup dans les campements discuter avec plein de gens, jamais senti quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle islamisme aujourd'hui. Il n'y avait aucun symptôme. Au contraire, c'était une curiosité incroyable. Donc, ils étaient absolument ancrés dans leurs convictions, mais on pouvait parler de tout. Et on se voyait en dehors des cours aussi. On allait boire le thé ensemble, etc. Il n'y avait aucune ambiguïté. C'était, j'étais le prof de leur âge, voire plus jeune, mais j'étais le prof, j'avais le droit. Simplement, ils se battaient pour refuser dans un premier temps l'enseignement. Puis après discussion, bon, bah d'accord, si vous nous le dites, etc. Et ça a été pour moi, sur le plan, pas seulement intellectuel, sur le plan humain, une expérience formidable parce que être plongé dans un univers aussi différent, et là réellement, alors exotique pour un jeune Français, c'était quelque chose ça a été quelque chose de très passionnant qui m'a, moi, beaucoup, beaucoup apporté. Outre le fait que j'ai pu circuler, à l'époque on circulait très librement dans des conditions acrobatiques sur le plan matériel, mais dans le désert, il n'y avait aucun danger. Si on tombait en panne, il y avait un campement à 1 km, on était accueillis comme des frères, on tuait une chèvre ou une chamelle pour honorer l'honorable visiteur. C'était quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, on ne peut plus se promener au Sahara. C'est quand même, on en est revenu au temps du père de Foucault. Hein. Donc j'ai appris énormément pendant cette période. Alors, Delvert ne pouvant pas diriger ma thèse parce que ce n'était pas tropical humide, m'envoie vers un de ses collègues, vers qui je ne serais honnêtement jamais allé pour diriger mes travaux, compte tenu de son caractère, on pourrait dire rugueux. Paix à son âme, il est décédé il y a 2 ans, Pierre le connaît bien, c'est Xavier de Planol, qui était dans mon UFR de géographie de Paris-Sorbonne et qui était à la fois le plus grand savant sur le monde musulman, incontestablement, dans la géographie française, et en même temps le caractère le plus difficile qui puisse exister. Et encore, c'est une litote de dire cela, puisque jusqu'à sa mort, on est resté très, très proche jusqu'au bout, il m'a passé des savons constamment, 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 avec beaucoup d'affection, mais quand même pas beaucoup de ménagement. Mais c'est comme ça, il fallait le prendre comme il était. Je pense qu'il souffrait beaucoup, lui aussi, de toutes sortes de choses, mais c'est comme ça. Et en tout cas, donc je suis allé le voir pour faire une thèse avec lui, puisque j'étais pour 2 ans en Mauritanie, hasard de ma vie. Il m'a dit, bon, très bien, vous êtes à Nouakchott, on ne sait rien sur cette ville. On ne sait absolument rien sur cette ville, d'où vient-elle, qu'est-ce qui s'y passe. Donc il y avait déjà 70 000 à 100 000 habitants. À l'époque, il n'y avait pas eu de recensement véritable. Donc ben, vous allez faire une thèse sur Nouakchott. Donc je fais une thèse sur Nouakchott, et là j'ai fait de l'histoire aussi, puisque il y avait encore, je ne sais pas si aujourd'hui elles existent encore, il y avait des archives de l'époque coloniale qui avaient été transférées de Saint-Louis à Nouakchott, qui étaient dans des montagnes de sable. Hein, il fallait secouer les documents, enlever le sable pour pouvoir les consulter, mais il y avait en fait toutes les archives des années 50, enfin de la période coloniale, même d'avant la guerre, mais moi je me suis intéressé surtout à la création de la ville et au processus de création de cette ville et qui a abouti à ce paysage incroyable, cette fascination pour le modèle de la charte d'Athènes, le modèle de Le Corbusier, où n'importe où que l'on soit, qu'on soit à Sarcelles, à Caen, à Marseille, à Brasilia ou à Nouakchott, on construit des tours et des bars en béton, des logements collectifs, sans penser en aucune manière au climat, à la vie sociale, etc., parce que ça c'était l'idéal urbain. Donc j'ai essayé de comprendre et d'expliquer ça à travers tous les textes, tous les témoignages des gouverneurs, des ambassadeurs, des préfets, etc. Donc j'ai fait l'histoire de cette ville et en même temps la géographie à cette époque, et en particulier ce qui passionnait de Planol, la géographie commerciale, parce qu'il y avait des Allemands qui étudiaient les bazars et les souks de tout le monde arabo-musulman, donc de l'Iran, de la Turquie, de l'Irak, etc., du Maroc, il y a eu la thèse de Troin sur le commerce au Maroc, les souks marocains, et donc il m'a dit, vous allez cartographier tous les commerces. Donc en 2 ans, j'ai cartographié tous les commerces, y compris les petits vendeurs sur un pagne de banabana, les banabana, tout est cartographié dans la thèse, parce que c'est ce qu'ils voulaient, et j'avoue que c'est très exigeant de faire ça, Je pense que c'est comme je l'avais fait avec beaucoup de sérieux et de rigueur, ça reste une source. Après, on peut l'interpréter autrement que je l'avais fait aujourd'hui, mais ça montre, je crois, l'importance aussi d'établir des documents fiables, même si on se trompe dans l'interprétation, cette rigueur est toujours utile. Donc ces documents qui sont très maladroits sur le plan de la cartographie, quand je me replonge dans cette thèse, que j'aime pas trop relire quand même, mais quand je me replonge dedans, je me dis, ben, voilà des choses maladroites, mais de toute première main, et totalement rigoureuses et exactes. Donc un jour, d'autres gens qui travailleront sur la géographie du commerce utiliseront ça et en feront une interprétation passionnante, feront des comparaisons, etc. Mais établir, et ça les historiens savent très très bien le faire, parfois nous reprochent à nous géographes d'être un tout petit peu impressionnistes dans notre façon d'aller chercher l'information, de la repérer, de la mettre en forme. Donc cette rigueur me paraît quelque chose d'essentiel. Et je dois dire quand même, après avoir dit du mal de mon maître de Planolle, que la rigueur, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas en avoir. Et donc ça, il me l'a transmise, tout en pensant que moi, je n'étais pas assez rigoureux. Tout au long de ma vie, il me l'a reproché. Mais j'ai essayé de m'approcher un tout petit peu. J'ai fait comme je pouvais. Mais ça, c'est quelque chose qui vraiment vous sera précieux. Quel que soit le sujet que vous étudiez, le plus de rigueur et d'exactitude possible, le plus de notes en bas de page, tout ça est extrêmement précieux. Une information que vous mettez comme si elle venait de vous alors que vous l'avez lue quelque part ou vous avez oublié d'où ça vient, ça, si vous avez oublié, essayez de chercher la source. Tout doit être absolument béquillé. Bon, c'est pas à Jean-Marc que je vais apprendre quelque chose dans ce domaine parce que c'est quand même votre grande force, c'est la grande force de l'école historique, pas seulement française, hein, aussi allemande, anglo-saxonne, japonaise et probablement d'autres pays du monde. Mais nous devons absolument faire la même chose en géographie, même quand il s'agit d'observation. Si c'est observé et vu, ben, il faut qu'on le sache en lisant le résultat que ça a été vu, tel jour, à telle heure, la photo soit renseignée avec l'heure, la date, etc. Donc je termine cette thèse, ça va, j'ai encore un tout petit peu de temps, je termine cette thèse sur Nouakchott que je soutiens. Alors, je serais bien resté en Mauritanie parce que je m'étais bien plu dans ce pays, j'avais aucune attache en France, aucune attache en Mauritanie non plus, j'étais libre comme l'air, et l'ambassade de France m'avait proposé de rester comme inspecteur des élèves que j'avais eus pendant 2 ans et qu'on avait casé comme prof de collège dans toute la Mauritanie. Il m'avait dit, bah, puisque vous entendez bien avec eux, il y avait un accord de coopération qui coûtait très cher à la France à l'époque, vous allez rester en Mauritanie et vous serez leur inspecteur, vous irez les voir dans les collèges, vous inspecterez leurs classes, vous leur donnerez des conseils pour leurs cours, ce qui ne me déplaisait pas et ça aurait été une suite. Après, je serais resté en Afrique, comme beaucoup de collègues de ma génération qui sont restés en Afrique, ont fait une longue carrière jusqu'à ce que la coopération s'arrête. Mais en 1974, on m'écrit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone en Mauritanie. Il fallait aller la nuit. Il y avait 1 heure de téléphone par jour. On n'imagine plus ça aujourd'hui avec nos portables, etc. Et on m'écrit pour me dire, il y a un poste d'assistant à Paris-Sorbonne, à Paris 4. Si vous le voulez, il est pour vous. Et donc, je me suis dit, ne voulant pas rentrer dans le secondaire en France, prof du secondaire, où j'avais un poste qui m'attendait puisque j'étais agrégé, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Donc l'occasion fait le larron, je suis rentré comme assistant, et là, j'ai découvert de plus près le monde universitaire. Bon, entre-temps, s'était créée l'université Paris-Sorbonne dans un contexte que je ne veux pas raconter, parce que d'abord, ça prendrait trop de temps, et puis ce n'est pas très joyeux, de divorce grave entre trois communautés de géographes de Paris-Centre qui ont donné l'UFR de géographie de Paris 1, de Paris 7 et de Paris 4, avec des collègues ne se parlant pas pendant 20 ans. Ils ne se sont pas parlé alors qu'ils partageaient le même bâtiment et la même bibliothèque. Donc des tensions qui ont existé dans d'autres universités aussi, qui se sont coupées, comme Lyon 3, Lyon 2 et Lyon 3, comme où est-ce qu'il y a eu à Bordeaux aussi, donc des divisions fratricides et surtout non productives, totalement improductives. Mais c'est comme ça. Donc j'avais participé, moi, à la création de Paris-Sorbonne et j'étais dans cette mouvance, entouré de maîtres Donc, comme de Planol, Delver, mais aussi Pédelaborde, aussi Pierre Biro, aussi Guilcher, et puis après Vanet, de grands maîtres qui sont venus après, comme Paul Claval, etc. Donc, Flatres, de qui j'ai beaucoup, Michel Chevalier plus tard, de qui j'ai beaucoup, beaucoup appris, en particulier sur le plan rural, parce que même si j'avais fait une thèse de géographie urbaine, ma vraie passion, venue de ma maîtrise, c'était quand même la campagne et le monde rural. Et puis j'étais quand même dans la fascination de, un petit peu, je dirais, pour résumer, seule la terre ne ment pas. Donc c'était pas la vision idyllique et pré-écologiste de la, du retour à la terre de 68, genre hippie et Larzac. C'était plutôt un peu antérieur. Donc quand je dis seule la terre ne ment pas, phrase de Berle, c'est l'idée que la ville est un lieu de perdition, tandis qu'à la campagne, il y a les valeurs sûres et solides. Bon, c'est pas tout à fait vrai, j'en suis persuadé, mais à l'époque, j'étais quand même un peu dans cette, inconsciemment, hein, dans cette idée. J'avais lu en particulier, mais Pierre doit se rappeler, tous les livres sérieux et tous les romans d'un géographe très étonnant, il s'appelait Lucien Gachon, professeur à Clermont-Ferrand, fils de paysan qui vivait à la campagne dans le Livradois, et que j'avais été voir un été au retour de Mauritanie. Je suis allé voir Gachon visiter. C'était la visite au maître, hein, qui trônait dans sa ferme et qui vivait exactement comme ses grands-parents, qui cultivaient tout. Il vivait en autarcie et il écrivait des romans paysans. C'était un ami de Pourrat, Henri Pourrat, donc des romans paysans. Et puis moi, je lisais Giono à ce moment-là, je versais des larmes sur Giono et sur Ramuse et toute cette veine littéraire ruraliste complètement inventée, hein, romantique. Mais ça fait rien, ça me faisait rêver. Donc je rentre en France, je deviens assistant, et à ce moment-là, c'était le moment de déposer une thèse d'État, puisqu'on était assistant 4 ans, et pour pouvoir passer maître assistant, et ensuite éventuellement professeur, mais en tout cas pour passer maître assistant titulaire, il fallait être déjà un peu avancé dans sa thèse d'État, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui habilitation, mais qu'on appelait la thèse d'État, qui était le pavé qu'un certain nombre dans cette salle ont pratiqué. Et donc, ayant travaillé avec De Planol, lui voulait que je continue à travailler avec lui, et je lui dis, oui, d'accord, mais je voudrais travailler sur la vigne et le vin, parce que c'est ça qui m'intéresse. Non, non, il n'y a plus rien d'original à faire. Tout a été écrit depuis Roger Dion. Je l'ai cru. Il avait tort. Parce que déjà à cette époque, dans les années 70, donc on est en 75 là, déjà en 75, le monde de la vigne et du vin commençait à bouger énormément. Et il y avait beaucoup de choses qui auraient été très intéressantes à étudier. Par exemple, un vignoble qui n'avait jamais été étudié par les géographes, c'est la Champagne ou l'Alsace, mais la Champagne, compte tenu aussi des capitaux, des grandes entreprises, ça aurait été absolument passionnant. Et De Planol n'en voulait absolument pas. Et il me dit, il avait créé une sorte d'association qui était le Congrès international d'études sur le paysage rural. Ça te dit quelque chose? Voyons, comment s'appelait ça? C'était, il y avait des Suédois, des Allemands, des Anglais. C'était un groupe international d'études des structures agraires. Mais vous avez dû y participer, Pierre. Et De Planol présidait cette affaire-là dans ces années 70. Et il me dit, à plusieurs reprises, au cours de ces congrès, il y en avait eu un à Perugia, on a évoqué le châtaignier. On ne sait rien sur le châtaignier. Il n'y a pas de travaux géographiques, historiques. On a très peu de connaissances. Voilà un beau sujet. Vous allez étudier le châtaignier en Europe. Et moi, le châtaignier ne me disait absolument rien. Vraiment. À Paris, quand on est parisien, on va en automne, on prend les trains de banlieue et on va dans la forêt de Sénart, à Montmorency, ramasser des petites châtaignes grandes comme ça, sous les châtaigniers, parce que les châtaigneraies, ce sont des châtaigneraies à échalas. Ce sont des taillis qui servaient à faire les piquets de vigne de tous les vignobles de l'Île-de-France. Et donc, tous les plateaux, toutes les grandes forêts d'Île-de-France sont peuplées de châtaigniers, surtout les périphéries. Quand on traverse la forêt de Montmorency, encore aujourd'hui, vous avez des taillis de châtaigniers tout autour, sur 500 mètres ou 1 km de large, et au milieu, vous avez des chênes, vous avez les grandes espèces, mais les châtaigniers sont autour parce que les vignobles étaient sur les pentes. Bon. Donc pour moi, c'était ça. Alors évidemment, ce sont des châtaigniers non greffés, avec des petites châtaignes grandes comme ça, où il n'y a pas grand-chose à manger, mais c'était amusant quand on était enfant d'aller chercher, ramasser les châtaignes et de les manger le dimanche soir en rentrant à la maison. Et donc vraiment, ça ne me disait rien. Et il a tellement insisté avec sa force de persuasion, et il voulait tellement pas tellement peu que je travaille sur la vigne et le vin, que je me suis laissé faire. Et donc je me suis embarqué. C'est pas mal quand même d'avoir de temps en temps des maîtres un peu coercitifs quand ils sont un peu illuminés quand même, je veux dire un peu éclairés par beaucoup de lectures et par beaucoup de réflexions, de les suivre et de... Donc moi, c'est pas moi qui ai choisi mon sujet. Mon sujet de thèse d'État qui m'a quand même permis, qui m'a obligé à travailler 10 ans sur les châtaigneraies, est un sujet qu'on m'a imposé, disons-le, et je ne le regrette pas. Alors comme j'avais pas mal de goût pour les archives et pour l'histoire, de Planol m'avait dit, il faudrait d'abord qu'on sache si c'est naturel ou si ça a été planté. Et on ne le savait pas à l'époque. Personne ne peut... Beaucoup de gens, la littérature des forestiers, parce qu'il y avait beaucoup de littérature, mais de forestiers, parce qu'il y avait eu des maladies du châtaignier, l'encre et le chancre, et donc on étudiait ces maladies. Et pour les forestiers qui avaient lu un peu les géologues et regardé les fossiles, c'est un arbre qui existe en Europe occidentale de tout temps. Depuis toujours. Et on sait que ça pousse sur les sols siliceux. Ça, on le savait très bien. Et donc, c'est un arbre naturel. Et donc, on parlait de forêt de châtaigniers. Et donc, de Palau me dit, il faudrait qu'on sache quand même si c'est planté ou si c'est sauvage, si c'est naturel. Et donc, j'ai commencé à travailler. Mais le sujet qui m'avait imposé, c'était toute l'Europe. Ce qui veut dire qu'il fallait travailler sur des sources françaises, mais aussi italienne, espagnole, portugaise. Il y en avait un peu plus à l'Est, mais ça, j'ai pas beaucoup étudié la Yougoslavie, la Suisse, tout petit peu, mais vraiment superficiellement. Et sur le plan historique, il y avait des sources en latin. Et il se trouve que moi, je n'avais pas fait de latin à l'école. Donc j'étais face à des... J'avais fait un peu d'espagnol, mais donc j'ai dû travailler dans de la littérature dans toutes les langues et dans les archives aussi dans toutes les langues. Donc une des premières... recherche que j'ai faite, c'était en Italie. J'ai passé 6 semaines à Florence, je ne sais pas, vers 75, je pense, où il y avait un grand centre d'études du châtaignier et des archives incroyables. Donc j'ai le souvenir à l'Archivio di Stato de Florence et sous le palais des Offices, vous savez, le musée des Offices, où vous avez Botticelli, etc., toutes les merveilles des Médicis, et tout le rez-de-chaussée à Florence, à la hauteur de la Piazza della Signoria, là, cette place qui est en... très étroite et en rectangle, tout le rez-de-chaussée, des hauteurs de plafond comme ici, ce sont les archives d'État, archivio di Stato, de la Toscane, avec toutes les archives des Médicis. Et alors je vois le directeur des archives, je lui dis quel est mon sujet. Donc, grand sourire jusqu'ici, il m'a dit, mais il y a 30 kilomètres ici d'archives, je ne sais absolument pas où vous dire d'aller voir. Il y a sûrement des milliers de choses, et elles y sont toujours, mais ce n'était pas possible. Alors heureusement, il y avait à côté une bibliothèque formidable, qui est la bibliothèque de l'Académie des Georgophiles. Georgophili, qui est une académie créée au XVIIe siècle, je crois, et de physiocrates. Et donc une bibliothèque incroyable, agronomique, dont toute la littérature sur le châtaignier existante depuis l'époque moderne. Donc là, j'ai eu beaucoup de choses. Et en tout cas, puis alors, il y avait ce centre à l'université, qui était un centre de botanique, où là, j'ai réussi à établir une carte du châtaignier en Europe, ce qui n'était pas rien. Donc j'ai, en 75, la première chose que j'ai faite, c'est une carte de la répartition des châtaigniers en Europe. Pays par pays, région par région, j'avais quelque chose d'à peu près au point. Mais aucune réponse sur l'origine du châtaignier et aucune, surtout, aucune intuition. Et ça, c'est quelque chose que vous rencontrez dans la recherche, j'imagine. C'est quand vous commencez sur un sujet qui vous apparaît une montagne, hein, une botte de foin dans laquelle il faut trouver l'aiguille et que vous n'avez pas l'intuition. Vous avez une vaste question. Donc moi, j'avais la carte, répartition de châtaignier. Ma question, c'était pourquoi ils sont là et pas ailleurs. En fait, c'est la base de la géographie, c'est pourquoi c'est ici et pas à côté. Et pourquoi tel phénomène, qu'il soit matériel comme des arbres ou comme une montagne ou comme une rivière ou comme un lac, a telle frontière? Pourquoi telle religion, tel vote politique, telle densité de population, ça se répartit comme ça dans l'espace avec une frontière et d'un côté c'est comme ça, de l'autre côté c'est autrement. Et la question du géographe, c'est toujours, c'est ça, c'est le pourquoi du où, pourquoi c'est là et pas à côté et pourquoi ça se répartit comme ça dans l'espace et pas autrement. En fait, c'est ça notre seule question. Tandis que pour les historiens, c'est pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ça se produit à ce moment-là? Pourquoi la guerre? Pourquoi tel phénomène politique, économique, etc. Bon, donc, le temps et l'espace. Et l'année suivante, donc, parce que il y avait très peu d'argent. On faisait de la recherche sans argent aussi. Bon, j'étais assistant, j'avais un salaire. Pas mirobolant, mais j'avais un salaire. Mais il n'y avait pas de crédit de recherche, du tout. Donc, c'était aux frais du thésard. Donc, je décide, en accord avec De Planol, d'aller en Ardèche, parce que c'était une des, la région de France où il y en avait le plus de châtaigniers, avec la Corse. Donc, je commence à aller en Ardèche et je décide, je loue un gîte et je décide d'aller passer 6 semaines aux archives départementales de Privas, que je vous recommande, c'est superbe. La ville de Privas, bon, on s'ennuie un peu le soir, mais voilà. Donc, 6 semaines aux archives de Privas. Et là, donc, je trouve beaucoup, beaucoup de choses. Je dépouille beaucoup de littérature, de documents anciens, de plans, etc. Et l'archiviste connaissait un peu ses archives, mais beaucoup moins que ce que je trouverais un an ou 2 ans plus tard. L'archiviste de Corse, M. Lamotte, était là depuis 30 ans en poste et il connaissait absolument toutes ses archives. Donc, le premier jour où je suis allé le voir, je lui disais que je travaillais sur le châtaignier. Mais, d'accord. Bon, ben alors voilà, vous allez sortir tel dossier. Et il m'a sorti tous les dossiers qu'il connaissait par cœur. Je peux vous assurer que ça vous facilite la tâche quand vous arrivez dans un dépôt, bon, comme tous les dépôts d'archives départementales, immense, de tomber sur un archiviste qu'il connaît bien. Mais là, c'était un magasinier. Et je vous raconte cette histoire un tout petit peu en détail parce que c'est les eureka dans la vie d'un chercheur. D'un seul coup, vous tombez sur le document qui vous permet, après, vous tirez la ficelle et tout vient avec. Et ça, c'est des moments dans la vie d'un chercheur, vous les avez peut-être déjà éprouvés, les uns et les autres, qui sont absolument fascinants et qui vous récompensent d'années, parfois, d'efforts où on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas très bien ce qu'on cherche. Donc là, le magasinier, un vieux monsieur, voyait que je m'intéressais au plan cadastro. Donc j'avais sorti les compois, etc. Mais vous savez, toi tu connais ça beaucoup mieux que moi, mais quand vous sortez un compois, un document comme ça, avec toutes les parcelles et les propriétés d'un village, avec le nom du propriétaire, difficile à lire, des graphies du XVIe siècle, très difficile à lire, avec le nom du propriétaire, la contenance, l'impôt, et quand même la culture. Moi, c'est la culture qui m'intéressait. Je voulais repérer le châtaignier, mais que vous n'avez aucun plan à côté, c'est pratiquement impossible à exploiter. C'est des jours et des jours et des jours de travail pour arriver à quelque chose. Vous allez mettre des pourcentages, mais rien de concret, de cartographiable. Or, ce magasinier me dit « Ah, je crois qu'il y a dans un coin un rouleau d'un vieux plan cadastral qui pourrait peut-être vous intéresser. » Et donc, il me sort un document qui faisait à peu près 2 mètres sur 1. J'aurais dû l'apporter d'ailleurs parce que j'ai encore la photocopie d'époque. C'était les petits bouts de photocopie scotchés. Mais il me sort ce document et qui était un document du XVIIIe siècle, 1774, autant que je m'en souvienne, que j'ai publié dans ma thèse. Enfin, je l'ai publié en partie, mais j'en ai fait des cartes après. Et qui est un document comme on n'en trouve qu'une fois dans sa vie. Surtout que ça concernait le châtaignier. Alors, c'est un petit terroir. Je sais pas, de 100 mètres sur 100 mètres, quelque chose comme ça, mais le plan cadastral est immense. Un petit terroir qui est situé près d'Aubenas, entre Privas et Aubenas, donc sur je sais plus quelle commune, enfin c'est tout près d'Aubenas. Et ce plan cadastral, il y avait donc toutes les parcelles dessinées, mais assez grandes, puisque chaque parcelle faisait plusieurs centimètres de côté dans le dessin. Et sur chaque parcelle, un clerc de notaire, sans doute, j'ai jamais su qui l'avait fait, avait reporté avec une graphie très précise et très lisible, pour moi qui ne suis pas paléographe, au XVIIIe siècle, c'est facile à lire, avait reporté tous les changements de propriétaire et de culture depuis le XIVe siècle. C'est-à-dire qu'il avait eu affaire à des compois, il avait des documents qui n'existaient plus à ce moment-là, qui lui avait permis de reporter tout ça sur toutes les parcelles. Alors pourquoi, je n'ai jamais su. Est-ce que c'était une affaire de contestation entre différents propriétaires et qu'il fallait absolument être sûr de savoir d'où ça venait, etc. C'était évidemment pour les propriétés, peut-être pour l'impôt, mais certainement pas pour les cultures. Mais il se trouve que par hasard, il avait reporté aussi la nature des cultures. Et que, donc, dès que je me suis aperçu qu'il y avait presque partout sur les parcelles, à un moment donné, les lettres CHAST, C-H-A-S-T, c'est-à-dire Châtaigneraie, avec le S, je dis, mais c'est un document extraordinaire. Parce que, donc pour chaque parcelle, j'en ai fait des reproductions, et pour chaque date, il y avait 1390, 1500 et quelques, 1600 et quelques, 1700, etc., il y avait tous les changements de culture. Et donc, je me suis aperçu, donc ça m'a demandé 2-3 jours de travail, que au XIVe siècle, c'était un terroir en pente moyenne sur des sols de grès, uniquement cultivé ce qu'on appelait terre, c'est-à-dire terre cultivée, terre labourée, avec du seigle, probablement. Et puis, on voit apparaître, au XVIe siècle, terre et chaste, c'est-à-dire labour planté, complanté de châtaigniers. Et puis, petit à petit, en arrivant vers le XVIIIe, chaste tout court. Et donc, j'avais la clé de ma thèse, c'est-à-dire des terroirs plantés, labourés et plantés en céréales, et à un moment donné, le châtaignier remplace les céréales. Et entre les deux, le complantage, parce que si on abandonne complètement les céréales, il n'y a plus rien à manger. Mais en cherchant après d'autres documents, je me suis aperçu que ça correspondait à la croissance de la population d'après la guerre de Cent Ans, d'après les grandes pestes, et donc à une très forte croissance de la population dans ces régions du Massif central. L'insuffisance d'alimentation liée à une culture sans engrais, etc., de seigle avec de très faibles rendements, et la découverte du fait que le châtaignier greffé est bien cultivé, quand il occupe toute la parcelle et qu'il n'y a plus de place pour cultiver le seigle parce que son ombre couvre la totalité de la parcelle, ça fournit 2 à 3 fois plus de calories à l'hectare que les céréales. Et donc j'avais la clé de toute ma thèse. Par chance, j'ai découvert ce document au bout de 2 ans de recherche. Je l'aurais découvert au bout de 8 ou 10 ans. Je me serais embêté et peut-être même j'aurais abandonné ce sujet. Mais là, c'est pas une intuition, c'est une découverte, une véritable découverte, comme Champollion et la pierre de Rosette, toute proportion gardée. Hein. Mais c'est comme ça, et je peux vous assurer, mais vous le savez, que quand vous trouvez quelque chose de ce genre, ça vous procure une joie incroyable, et c'est un stimulant pour la suite du travail, pour la recherche, qui est fantastique. Donc, je tenais ma thèse, entre guillemets, c'est-à-dire l'idée que le châtaignier est un arbre planté, greffé, cultivé, qu'on l'a développé là où on en avait besoin pour des raisons démographiques et que ça a permis en même temps, enfin par effet d'entraînement, une croissance démographique de plus en plus forte. Et ça a duré jusqu'à ce qu'on trouve autre chose, c'est-à-dire les engrais, les pommes de terre, l'exode rural avec la croissance industrielle, jusqu'au moment où, vers la fin du 19e siècle, milieu 19e siècle, selon les régions, Italie, Espagne, Portugal, France du Sud, Corse, etc., où il n'est plus nécessaire. Et à ce moment-là, le châtaignier est abandonné, on ne le cultive plus, on ne l'élague plus, on ne laboure plus en dessous, il attrape des maladies, etc. Et le châtaignier disparaît. Donc c'est, en fait, cette histoire du châtaignier, c'est 3 à 4 siècles, selon les régions. La plus ancienne, c'est la Ligurie, donc, parce qu'après, j'ai essayé de vérifier que c'était applicable partout, cette affaire-là. Donc ça marche pour la Ligurie, ça marche pour la Corse, ça marche pour la Toscane, ça marche pour le Trachos Montes au nord du Portugal, ça marche pour la Galice. Notre collègue Bouillet avait très bien étudié ça. Et on voit que partout, c'est le même schéma. Donc avec des dates un peu différentes, c'est entre le XIIIe siècle pour la Ligurie et le XVIe siècle pour le Massif central. Et puis des régions où on ne va même pas jusqu'à la châtaigneraie complète parce qu'il n'y a pas besoin, parce qu'on a découvert d'autres moyens de vivre avant, comme le Limousin. À ce moment-là, on en reste à quelques parcelles, et ça devient un complément alimentaire. Mais les régions de châtaigneraie vivrière, où les gens ont vécu pendant plusieurs siècles essentiellement à base de châtaigne, pensez qu'en Castagnitch, Corse, il y avait en 1900, des paysans de la Castagnitch, vous savez, c'est la partie schisteuse du nord de la Corse, qui n'avaient jamais mangé de pain, qui ne mangeaient que ces espèces de bouillies de châtaigne ou ce qu'on appelle parfois le pain de bois, qui est un pain extrêmement consistant, parce que la farine de châtaigne, ça ne lève pas comme la farine de froment. Donc c'est un étouffe chrétien, mais un étouffe chrétien qui vous permet de vivre et qui, du coup, donne une espèce d'attachement aussi sentimental. Et c'est pour ça, moi, quand j'ai fini ma thèse en 86, j'ai écrit, bon, ben voilà, il y a eu 3-4 siècles formidables. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Le châtaignier va disparaître. Ne pleurons pas. Ne pleurons pas. Le châtaignier a été utile. Il ne l'est plus. Ben, tant pis. On ne va pas le maintenir pour des raisons uniquement sentimentales. Et en fait, c'est le moment, 86, où se développent énormément les produits de terroir, l'attachement aux traditions dans l'Europe entière. Et donc, du coup, on replante des châtaigniers, mais pour des raisons purement patrimoniales, sentimentales, qui n'ont rien d'économiquement nécessaire. Et donc, comme la thèse a été rééditée, j'ai fait une sorte d'avant-propos en disant « Je suis désolé, j'ai cru que c'était fini. » Ben non, c'est pas fini. Ça repart. Et donc, voilà, il y a des phénomènes dans l'histoire agraire et l'histoire partout qui sont, et dans la géographie, qui sont vraiment étonnants. À ce moment-là, donc pendant que je terminais cette thèse, au milieu, un de mes amis me dit, qui est un éditeur, Denis Maraval, on avait été étudiants ensemble, on était très, très proches, il me dit, c'est quand même incroyable, les historiens font des livres qui se vendent très bien, ils passent à la télévision, ils sont tous, il y en a plein qui sont très connus, c'était la grande époque du Bif, Favier, Leroy Ladurie à la télévision, plus Castelot et Decaux, etc. Et l'autre, les géographes, personne ne les connaît, on ne vous voit jamais, vous ne publiez rien de visible pour le grand public, vous n'avez pas de revue lisible par le commun des mortels, alors que les historiens, l'Historia et l'Histoire venaient de se créer à ce moment-là, et puis plein d'autres magazines. Vous, les géographes, vous êtes quand même nuls. Et je lui dis, mais tu sais, en Angleterre, il y a un géographe qui s'appelle William Hodgkins, qui a écrit un livre dans les années 50 qui s'appelle « Making of English Landscape », qui est publié en Penguin, je pense que ça existe encore en Penguin, qui est une histoire du paysage anglais fondée en grande partie sur le Domesday Book, c'est-à-dire tout ce qu'on peut savoir sur l'histoire agraire de l'Angleterre grâce à ce document exceptionnel. Et ce livre a eu un succès fou en Angleterre, parce que Penguin, c'est quand même une collection de poches, et surtout, ce livre a donné lieu à une série télévisée du début de la télévision en Angleterre sur l'histoire de, vous savez, toutes les enclosures, le passage de l'Open Field au Bocage, tout ça est très très bien décrit dans ce livre. Et il y a eu une série télévisée à grand succès. Alors, donc je dis ça à mon ami, qui me dit peu de temps après, j'en ai parlé à mon patron, les éditions Talendier, j'en ai parlé à mon patron, ça l'intéresse beaucoup, tu devrais faire pareil pour la France. Et bon, j'étais en train de faire ma thèse d'État, j'étais encore jeune, et faire une synthèse sur l'histoire du paysage français, ça m'apparaissait un peu monstrueux et surtout quand même trop audacieux. J'en parle quand même à Xavier de Planolle, et vous pouvez imaginer sa réaction, mais vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas. Attendez d'avoir fini votre thèse, vous verrez si vous avez envie de faire ça après. Donc j'ai un tout petit peu insisté, et quand même c'était aussi, parce que j'ai l'air de le présenter sous un jour très noir, d'une certaine manière un grand libéral sur le plan intellectuel. Bon, mais si ça vous fait plaisir, allez-y. Et non seulement il me laisse faire, après avoir un peu insisté, mais il me propose, parce qu'il craignait un tout petit peu quand même mes débordements, de relire le manuscrit après. Et donc j'ai passé, je continuais ma thèse, mais j'ai passé surtout 2 ans à faire une synthèse qui m'a beaucoup servi pour enseigner après dans les cours, etc., ce qui s'appelle « Histoire du paysage français » et que j'ai publié en 83 après relecture par Xavier de Planolle, qui n'avait pas trouvé grand-chose à redire. Et donc ce livre a eu un petit succès, mais surtout, il m'a ancré définitivement dans l'idée, ce que tu voulais que je dise, je crois, que l'histoire et la géographie sont totalement inséparables. Et que si on veut comprendre la géographie du monde contemporain, on a évidemment impérativement besoin de connaissances historiques et d'avoir ce fond historique, parce que le temps et l'espace sont complètement inséparables. Et je dis la même chose aux historiens, qui sont peut-être majoritaires dans la salle, vous ne pouvez pas faire de bonne histoire sans connaissances géographiques et sans vous poser. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire de la géomorphologie, de la climatologie approfondie, mais sans vous poser la question de savoir pourquoi c'est là et pas ailleurs. Pourquoi tel phénomène historique que vous étudiez a pris naissance à cet endroit-là, c'est-à-dire inscrit dans l'espace, inscrit dans la réalité terrestre et dans la réalité géographique, à quelque part. Et il faut se poser constamment cette question qu'on ne se pose pas assez. Donc nous, géographes, nous ne nous posons plus assez la question, sauf ceux qui ont été mordus par ce poison dès le jeune âge du mariage de l'histoire et de la géographie, mais si nous abandonnons cela, d'abord, nous appauvrissons nos deux disciplines, les historiens s'appauvrissent, les géographes s'appauvrissent, et nous tuons aussi la moitié, nous sabotons la moitié du temps de travail des profs d'histoire géo du secondaire. Parce que quand on est prof du secondaire, on est historien essentiellement, 80% des profs d'histoire géo du secondaire sont agrégés d'histoire ou certifiés avec une majeure histoire, et on enseigne 50% de géographie. Et on s'ennuie pendant 50% de son temps si on n'a pas vraiment la flamme géographique. Si on est géographe pur sucre, on a plus de facilité pour s'informer sur ce qui se fait en histoire et sur l'évolution de la discipline, sur l'évolution de la science historique, même en regardant la télévision. En géographie, c'est plus difficile. Je suis très content que dans... j'aime pas beaucoup cette émission que je trouve un peu trop statique, mais dans Les Racines et les Ailes, nouvelle version, vous l'avez remarqué, il y a une grande partie de l'émission qui se passe en hélicoptère ou en petit avion. Et il y a un géographe, en général un jeune géographe de l'université de la région qui est étudié, qui commente les paysages au micro. Et ça, c'est quelque chose qui est remarquable, mais très rare. Vous avez très, très peu de géographes qui s'expriment dans les médias. Donc, ce mariage de l'histoire et de la géographie, moi, je l'ai, alors, là, définitivement, après cette thèse et ce livre, ancré en moi, mais j'ai le souvenir, peut-être Pierre aussi a le souvenir, il y avait une commission du Comité national de géographie historique à l'époque. J'ai vraiment le souvenir d'avoir très longtemps été le plus jeune dans cette commission. Je ne le regrettais pas, d'ailleurs. J'ai appris énormément de choses. Mais tous les colloques de géographie historique qu'ont organisé Jean Peltre, vous, ici, qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Il y en a eu Alain Wetzelamps à Bordeaux. Il y a eu un certain nombre de grands colloques dans les années 80 et 90 de géographie historique. Il n'y avait pas énormément de jeunes collègues, de jeunes géographes communicants, parce que ça apparaissait ringard. C'était l'époque où commençait à se développer une géographie modélisatrice qui aboutira au Corem. Dans les années 90, lesquels Corem se sont effondrés complètement et aujourd'hui plus personne ne les utilise, ne sait lire même cette littérature quand même très, très absconce, très, sûrement très passionnante, mais très absconce. Donc en tout cas, la géographie historique apparaissait réellement comme une branche en voie de disparition, une espèce de fossile dans la discipline. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de jeunes collègues, que la commission est repartie et qu'un certain nombre de jeunes collègues s'intéressent à cette géographie historique et que le centre de Caen, ici, associe étroitement les géographes et les historiens. Donc de 1978, je rencontre... Je vais parler de ma vie privée, mais parce qu'on ne peut pas séparer sa vie privée de sa vie d'enseignant. Je rencontre une jeune journaliste japonaise qui venait en France pour écrire un livre sur le vin. Et qu'une de nos amies communes, une géographe, m'avait présenté en disant « Ah, tu veux travailler sur le vin ? Va donc voir Pete, il connaît un peu, il a des bonnes bouteilles à la maison. » Donc je reçois cette jeune journaliste japonaise avec qui je vis depuis 40 ans. Et donc nous avons travaillé ensemble sur le vin et beaucoup sur la gastronomie, puisqu'elle a beaucoup écrit aussi sur la gastronomie. Ce qui m'a replongé, bon, le vin je n'avais jamais abandonné, mais replongé dans mes premières amours de cuisinier. Et donc ma femme, qui est devenue ma femme donc, en 78, avait écrit au tout début de notre mariage un guide des restaurants de Paris pour les Japonais. Et donc, on avait, et moi je l'accompagnais bien entendu dans les restaurants, je ne voulais pas laisser ma place. Et donc, j'avais visité beaucoup de restaurants avec elle, rencontré beaucoup de chefs, et elle se disait, c'est un détail, mais qui vous montre aussi comment on peut approfondir un sujet. Elle se disait, alors parce qu'elle allait écrire son article, et puis après, elle disait, ah ben, vous avez un mari, ben, venez donc dîner au restaurant. Donc, je me précipitais pour l'accompagner, bien entendu. Et donc, on est devenus amis d'un certain nombre de chefs en vue. Je pense à Joël Robuchon, bien d'autres, Alain Saint-Drins, etc. Et donc, ma femme disait, ah, quand même, ils nous invitent, c'est gentil, il faut qu'on les invite à la maison. Et on a osé, les journalistes ne font jamais ça. On a osé inviter ces grands chefs à la maison qui venaient manger de la cuisine japonaise ou du pot-au-feu ou des pâtés que je faisais moi-même et qui étaient aux anges parce que jamais les cuisiniers ne sont invités par les journalistes. Jamais ils vont dans les familles normales. Ils invitent chez eux, bien entendu, c'est leur métier. Et donc, du coup, j'ai pu, grâce à cela, pénétrer ce milieu des cuisiniers, ce qui a abouti juste après ma thèse, en 89, parce qu'après la thèse, donc, je suis devenu prof, je passe le concours pour devenir professeur à Paris-Sorbonne, où il y avait un poste, et il y avait d'autres candidats aussi, et je fais mon petit laïus sur mes projets, et tout le monde savait que je m'intéressais au Japon, puisque je suis allé, je suis allé deux fois par an au Japon environ, et donc j'ai beaucoup bourlingué dans tout le Japon, et on me donnait plein de cours à faire sur le Japon à Paris-Sorbonne, surtout quand ça tombait au concours, etc. Et donc, je dis aux collègues qui étaient mes collègues et amis de Paris-Sorbonne qui m'interrogeaient pour le concours sur mes projets de recherche, je dis, moi, je voudrais travailler sur la gastronomie et le vin, enfin, puisque je n'ai pas dit parce que vous m'en avez empêché, mais c'est quand même ça que je pensais. Donc maintenant, c'est quand même ça que je veux faire. Et souvenir, c'était Jean Delvert qui était encore là, qui dit, non, mais vous n'y pensez pas, ce n'est pas un sujet de recherche. La gastronomie, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous allez au Japon, vous avez la chance de pouvoir aller au Japon assez souvent. Apprenez le japonais enfin et écrivez sur le Japon, parce que ça, on a besoin de savoir des choses. Et puis ça, c'est du solide, c'est du sérieux. Donc j'ai opiné du bonnet et je n'en ai fait qu'à ma tête. Donc j'ai écrit un peu sur le Japon, mais surtout, je me suis intéressé vraiment depuis 87 ou 8, essentiellement à la gastronomie et au vin. Et donc j'ai enfin pu mettre en œuvre mon projet d'enfance. C'est-à-dire, je n'ai pas pu devenir cuisinier, mais je fréquente les cuisiniers et je travaille sur la cuisine. Et avec Alain Wetzelamps, en 89, on a organisé un grand colloque à Paris sur l'histoire et la géographie des restaurants en France et dans le monde, qui a donné lieu à une publication épaisse chez Glénat, d'un très, très gros colloque et vraiment tout à fait original, parce que jamais on n'avait traité de ce sujet en géographie. Alors maintenant, on traite de tout. Hein. Si vous regardez la littérature géographique, surtout en géographie culturelle, tous les sujets sont traités, il n'y a plus aucun tabou, tout est possible. Et tant mieux, hein, le géographe, comme l'historien, doit s'intéresser absolument à tout. Mais les restaurants, c'était à l'époque très insolite. Et après, donc, j'ai pu écrire un certain nombre de choses sur la gastronomie et sur le vin et entraîner un certain nombre d'étudiants sans abandonner le paysage, parce que je pense qu'il y a un lien étroit entre bon vin, gastronomie et paysage. En ce sens, je n'ai pas le temps de développer, que le bon vin et les bons produits gastronomiques créent du beau paysage. Regardez tous les vignobles d'appellation contrôlée. Regardez toutes les zones où l'on produit des bons fromages. Regardez chez vous la vallée d'Auge, regardez le Beaufortin, regardez l'Écosse avec le Roquefort. Partout où il y a des bons produits, regardez la zone de production du port Quintoa au Pays Basque. Partout où il y a des bons produits, vous avez des paysages magnifiques et des possibilités de développement touristique, de multiples activités se greffant sur la production agricole de qualité. Je ne dis même pas de luxe, de qualité. La conclusion à laquelle j'arrive, c'est que le produit de qualité fait vivre le paysan. À condition que le paysan se prenne par la main, arrive à vendre ses produits et soit toujours dans une démarche de dépassement et de recherche de la plus grande qualité possible. Mais il y a moyen de vivre avec ça. Et ça crée en même temps plein d'activités complémentaires. Donc ça, c'est quelque chose de formidable et de très précieux comme enseignement. Je trouve dommage que les princes qui nous gouvernent et les ministres de l'Agriculture successifs n'aient pas assez développé cette idée que la qualité paye, qu'il n'y a plus un seul vigneron français qui est aidé par l'État, alors que pendant des dizaines d'années, depuis les crises du phylloxéra, on a déversé des sommes fantastiques sur le vignoble, mais on faisait du jaja. On faisait du vin de mauvaise qualité. Aujourd'hui, il y a des vignerons qui vivent plus que bien. Je peux vous assurer qu'en Bourgogne, un vigneron vit très, très, très bien. Il cache ses Rolls dans son garage pour ne pas trop montrer sa richesse. Donc, mais ils se sont pris par la main. Ils ont fait des vins toujours meilleurs. Ils ont cherché à le vendre, à le faire connaître dans le monde, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses d'avenir dans ce domaine-là. Voilà, donc le reste n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc, j'ai fait une carrière universitaire normale tout en me passionnant pour l'administration, ce qui fait que j'ai été, comme mes voisins, directeur de laboratoire, directeur du FR, président de mon université. Voilà, donc certains pensent qu'on perd du temps en faisant cela. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en faisant de l'administration. C'est pas très facile de gérer les étudiants, ça va, les collègues, moins facile. Mais quand même, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps. Et je pense que ça oblige à aller plus vite, mais qu'il ne faut jamais, quand on fait l'administration, abandonner l'enseignement et la recherche. Ça aussi, c'est peut-être une dernière chose que je pourrais dire, parce que là, je crois que j'étais trop long. Moi, j'ai du mal à concevoir, mais peut-être j'ai choqué certains d'entre vous, j'ai du mal à concevoir la recherche sans enseignement. Que ce soit dans les sciences humaines ou dans les sciences dures. J'ai parlé beaucoup avec des gens de physique, de biologie, etc. Tous disent la même chose. Enseigner, ça aide à clarifier la pensée du chercheur. Parce que combien de fois, pour ceux d'entre vous qui enseignent, combien de fois vous faites un cours, vous l'avez bien préparé, etc., vous savez tout ce que vous allez dire, vous faites un cours et c'est pendant le cours que, brusquement, vous avez quelque chose qui se produit dans le cerveau, une espèce de télescopage, deux idées qui se rapproche et vous avez une idée nouvelle, complètement nouvelle, que jamais vous n'avez eue auparavant. Moi, ça m'est arrivé très souvent de noter en marche sur un ticket de métro. Je le note parce que je vais l'oublier. Et c'est un truc qui vous vient au moment où vous le prononcez. Et ça, c'est formidable aussi dans le métier d'enseignant. Tandis que faire de la recherche tout seul, dans son coin, devant son ordinateur ou sur son terrain, mais sans avoir à communiquer autrement que dans des colloques, c'est-à-dire 3 fois par an ou 4 fois par an, où on fait une communication de 20 minutes et puis après on écrit son texte, je pense que ce n'est pas suffisant. Et donc, moi, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, je serai pour supprimer les postes de chercheur à vie au CNRS en sciences humaines, je ne veux pas parler trop des sciences dures que je connais moins bien, et les remplacer par des années sabbatiques pour les enseignants-chercheurs, dont nous manquons cruellement. Nous sommes le seul pays civilisé au monde, enfin si nous sommes civilisés, à ne pas avoir d'années sabbatiques, ou alors être obligé de faire la danse du ventre auprès des collègues, auprès des présidents d'université pour avoir un semestre par-ci, et ça, ce n'est pas normal. Dans tous les pays du monde, les universitaires ont des années sabbatiques tous les 7 ans, ce qui leur fait 3-4 fois dans leur carrière. Et là, on peut synthétiser un projet. On travaille des années sur un sujet et on a une année ou pour voyager à l'étranger ou pour changer de thématique de recherche. Et ça nous manque énormément en France. Mais évidemment, s'il y a des chercheurs CNRS dans la salle, je suis désolé pour eux. Vous allez m'en vouloir. Mais je crois que c'est vraiment important d'enseigner en même temps qu'on fait de la recherche. Voilà.